crois qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve que la loi numéro 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est une loi politiquement nocive. Elle trahit immédiatement sa propre vérité et se lie d'emblée pour ce qu'elle est, une falsification délibérée de la réalité historique, ce que l'on appelle dans la langue de la morale classique un mensonge. Et sauf à imaginer que les inspirateurs et les rédacteurs de cette loi de l'État aient été insuffisamment prévenus de l'importance des recherches historiques sur la question coloniale menées depuis la fin des guerres coloniales et la décolonisation, sauf à penser par ailleurs qu'ils ignorent que le clivage politique qui traverse durablement la communauté nationale ressortit pour beaucoup à cette question précise, on ne peut que reconnaître la violence intentionnelle d'un texte qui ressemble bien à une déclaration de guerre. Cet exposé répondra à l'une des questions essentielles qu'ont posées les organisateurs du colloque. Que signifie l'idéologie coloniale à l'époque de la post-colonie ? Question que je reformulerai pour ma part de la manière suivante. Quelle opération politique le mensonge néocolonial est-il censé servir ? Que l'on reconnaisse d'emblée le caractère falsificateur de la falsification. Et je crois que c'est le propre du mensonge révisionniste ou négationniste d'apparaître immédiatement pour ce qu'il est, de sorte qu'il n'y a pas de dialogue possible avec le révisionniste puisqu'on ne se trouve pas ici en présence d'un conflit d'interprétation, que l'on reconnaisse donc d'emblée le caractère falsificateur de la falsification ne dispense pas cependant de réfléchir à la nature de la falsification en question et de tenter d'identifier le type de manipulation auquel on a affaire. Ainsi, avant de dégager les significations pour notre présent politique du retour de l'idéologie coloniale telle qu'elle apparaît dans cette loi inique, je voudrais donner un certain nombre d'éléments d'interprétation, particulièrement à propos des articles 1 et 4 de la loi, qui sont, je crois, des articles à prétention historique. Tout d'abord, la loi numéro 2005-158, comme le rapport Diefenbacher qui l'a en partie inspiré, cette loi qui exalte le fait colonial d'une manière telle qu'on pourrait croire qu'elle fut rédigée à l'issue d'un banquet bien arrosé organisé par quelques organisations de pieds noirs influentes au sein de la vénérable maison qui accueille nos travaux, cette loi révèle une étrange parenté, une continuité même avec la représentation coloniale classique, celle qui se développe comme idéologie au sens marxiste du terme dans la première moitié, à la fin du XIXe siècle, disons, et dans la première moitié du XXe siècle, à l'époque où l'Empire français donne toute sa puissance. Sans entrer dans les détails d'une histoire longue et connue à laquelle bien des livres ont été consacrés, je dirais seulement que c'est dans la langue, comme cela a été rappelé ce matin, de l'idéologie coloniale devenue pour le moins inactuelle que le rapport Diefenbacher, du nom du député UMP du Lot-et-Garonne qui l'a rédigé, a été remis en 2003 au Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Qu'on en juge par ces quelques lignes, la France, écrit-il, avait demandé à ses fils les plus intrépides d'assurer son rayonnement par delà les mers, avec courage, avec enthousiasme, avec ténacité ils l'ont fait, les terres ont été mises en valeur, les maladies ont été combattues, une véritable politique de développement a été promue aux heures les plus noires de l'occupation nazie, lorsque le pays a eu besoin de son empire pour retrouver sa liberté et son honneur, l'armée d'Afrique a répondu à son appel. Grâce à elle, les pages les plus glorieuses de la libération ont été écrites. Mais à l'heure de la décolonisation, ces pionniers se sont sentis abandonnés, oubliés, trahis. Mais cette continuité n'est peut-être qu'une continuité d'apparence. À l'époque coloniale, il y a, je dirais, imitation de la pratique coloniale dans l'univers du discours. La pratique produit ses effets dans la théorie qui vaut alors comme représentation dominante, c'est-à-dire comme idéologie. L'idéologie constitue bien sûr une vision déformée de la réalité, elle est nécessairement excessive et justifie ou est censée justifier l'entreprise des hommes d'action en leur donnant au passage la certitude morale que leur action est vertueuse, qu'elle correspond en tout cas aux nécessités de la politique et à l'intérêt supérieur de la communauté nationale. À l'aune de la recherche historiographique, elle se révèle comme un réseau complexe de significations qui ont leur rationalité, leur cohérence, leur logique interne, réseau de significations qui est de plus capable de produire un certain nombre d'effets recherchés au plan politique. L'idéologie ne résiste évidemment pas à l'épreuve du vrai et du faux, et après coup, elle nous apparaît comme une représentation dogmatique, un pseudo-savoir. Ce qui vaut pour les idéologies scientifiques vaut aussi bien sûr pour les idéologies politiques, mais les idéologies ne peuvent pas se réduire à des falsifications délibérées, elles ne relèvent donc pas de la catégorie du mensonge. Le nouveau discours colonial me semble donc pour une large part en rupture avec l'idéologie de la colonisation et constitue davantage une mythologie qu'une idéologie. Et j'emploie ici le terme mythologie dans son acception barthienne comme parole dépolitisée, métalangage qui opère sur le réel une naturalisation en lui retirant sa densité historique pour lui substituer une innocence qui purifie la réalité des stigmates qui la souillent. Le réel est alors ramené à une sorte d'état de nature où les rapports sociaux semblent ne pas avoir existé, où la fabrication du monde par l'homme semble ne pas avoir eu lieu. Pour la nouvelle mythologie coloniale, le colonialisme a bien existé, mais il se réduit à la rencontre de blancs intrépides et courageux avec d'étranges populations indigènes. La mythologie a probablement besoin de l'idéologie pour se constituer, elle l'utilise sans doute comme instance de légitimation, mais elle en diffère essentiellement en ce sens qu'elle introduit de manière délibérée le mensonge au cœur de la réalité historique. Le mythe s'en prend consciemment, et sans se soucier d'ailleurs de la grossièreté de la falsification, à une mémoire méticuleusement construite par le travail historique, malgré les obstacles que l'historien rencontre, pour imposer une autre mémoire, mémoire manipulée selon le mot de Paul Ricoeur. Ce qui permet malgré tout à une telle mythologie de se constituer en empruntant la forme de la loi, ce qui est censé lui donner, si ce n'est la force de la vérité, du moins l'apparence de l'autorité, c'est le fait qu'en France, pour des raisons historiques qui ont à voir avec la constitution de la Ve République, le citoyen soit pour une large part tenu à l'écart de la politique étrangère, particulièrement quand il s'agit de la politique de la France dans ses ex-colonies, politique qui est de la compétence quasi exclusive du président de la République. La mythologie coloniale rencontre alors d'autant plus l'assentiment de l'opinion qu'elle ne se heurte qu'à une résistance modérée et qu'il ne dépend en définitive que de la vigilance des intellectuels et de la frange la plus politisée de l'opinion publique que le mythe ne devienne réalité. Le deuxième alinéa de l'article 1 de la loi de 1558 est un exemple pertinent pour évaluer la nouvelle mythologie et juger du degré de falsification qui en découle. La nation, je cite, reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilées, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage. En portant reconnaissance aux Français rapatriés. La loi de 2005, qui est essentiellement une réponse juridique à l'histoire algérienne, semble méconnaître la réalité historique de la guerre, qui fit certes des victimes dans les deux camps, mais surtout, en proportion incomparable, dans le camp de ceux qui étaient alors reconnus comme Français musulmans d'Algérie. Lorsque le législateur croit pouvoir se substituer à l'historien, le risque, c'est qu'il devienne un juge du passé, et que la préférence et la partialité l'emportent sur la neutralité de l'explication objective. Les colonisés en général, mais surtout les Algériens, absents de ce texte de loi, semblent renvoyés à la partie invisible de la scène sur laquelle se joue cette histoire. Ils sont absents parce qu'ils sont innommables, innommables parce que, à l'origine du drame vécu par ces pionniers abandonnés, trahis et oubliés, ils sont les assassins, et comme les assassins sont toujours vivants, eux ou leurs fils, mais qu'ils sont en quelque sorte hors de la juridiction française, il n'y a qu'une manière de rendre la justice, c'est de les faire disparaître dans l'oubli. L'amnésie volontaire est l'un des moyens de la falsification. Cet article de loi confirme finalement ce qu'a été le statut politique du colonisé, tant dans la représentation que dans les faits. Les colonisés ont constitué au sein de départements français pour ce qui concerne l'Algérie, ce que notre ami Sidi Mohamed Barkat a appelé un corps d'exception, ce que dans mon livre j'ai appelé un corps tuable, c'est-à-dire une fraction du corps social à laquelle est dénié l'exercice de droits politiques et qui constitue par rapport à la communauté politique nationale une sphère radicalement hétérogène, monde dans lequel la violence d'État s'inscrit comme possible ultime. Corps tuable, corps d'exception, c'est-à-dire encore corps non rassemblable au sein du grand corps national, corps ennemi donc, avec lequel la guerre doit être et rester nécessairement possible. Dire des rapatriés et des forces supplétives de l'armée française qu'elles ont été des victimes des événements liés au processus d'indépendance ne constitue probablement pas un mensonge. Mais ne dire que cela constitue à l'évidence un raccourci coupable, mythe politique dans lequel le million de morts algériens est simplement effacé, Tout cela n'est pas sans rappeler les photos truquées de l'ère stalinienne, où Trotsky et Kamenev disparaissaient comme par enchantement de la tribune de la place Verlov à Moscou, où ils se tenaient pourtant bien, quelques années plus tôt, aux côtés de Lénine haranguant les foules. Tout cela rappelle avec quelle obstination les états criminels effacent les traces de leur forfait sanglant. L'effacement des traces est aussi l'un des moyens ordinaires de la falsification. L'amnésie volontaire consiste à dissimuler une partie de la réalité. L'effacement des traces cherche à empêcher la reconstitution de la réalité. Alors, le mensonge peut devenir plausible. Alors, en quel sens peut-on dire que le mensonge est un opérateur politique efficace ? Qu'il n'y ait probablement pas de politique sans que soit préservée la possibilité du mensonge, parce que agir et mentir sont intimement liés et procèdent, comme l'écrit Hannah Arendt, de la même source, l'imagination. Cela nous renseigne sur les liens à jamais impossibles de la morale et de la politique et sur l'incapacité du jugement moral à faire valoir son autorité par rapport à l'action politique. Si la substance de la politique est l'action, la fameuse praxis des Grecs, on ne peut saisir son sens réel si l'on ne tente pas de comprendre les conditions qui rendent possible cette action ainsi que les fins qui motivent l'action des hommes. Cette fin, c'est, en tout cas pour l'époque moderne, la constitution et la préservation par tous les moyens de la communauté politique, ce que le juriste Carl Schmitt nomme le peuple, entité politique exclusive de tout autre, politiquement unie par l'instance suprême de la politique moderne, l'État. J'identifie ici politique et politique souveraine, politique étatique, ce qui ne signifie pas bien sûr qu'il n'existe pas d'action politique en dehors de la politique souveraine, l'action révolutionnaire par exemple. La politique, entendue du point de vue de l'État, est donc une instance de rassemblement. Mais le rassemblement implique aussi bien la séparation. Un peuple n'est donc un peuple au sens politique du terme que par opposition à un autre peuple avec lequel il est possible de s'entendre, mais qui doit rester un ennemi possible. En ce sens, la logique du souverain est toujours la logique de la guerre. Le critère propre du politique, selon Schmitt, dont la théorie forme une synthèse parfaite de toutes les théories étatistes modernes, c'est la possibilité de discriminer l'ami et l'ennemi, discrimination qui exprime le degré d'union ou de désunion d'un peuple avec une autre entité politique. Et c'est ici que l'histoire et sans doute l'historiographie vont jouer un rôle politique essentiel. Jacques Chirac l'affirmait lors de son entretien du 9 décembre 2005, l'histoire, disait-il, c'est la clé de la cohésion d'une nation, mais il suffit de peu de choses pour que l'histoire devienne un ferment de division, que les passions s'exacerbent, que les blessures du passé se rouvrent. À l'époque moderne, l'histoire n'est plus ce qu'elle était pour Hérodote et les Grecs, cette mémoire indispensable à la conservation des actions des hommes, par définition fugace. Les analyses politiques de Michel Foucault ont montré que l'histoire a été longtemps, jusqu'au XVIIe siècle probablement, le discours du pouvoir sur le pouvoir, qu'elle assurait le lien juridique unissant les hommes et le pouvoir. En même temps, elle eut pour fonction rectrice de fasciner, je cite Foucault, par l'intensité à peine soutenable de la gloire, de ses exemples et de ses exploits. Cette forme historique traditionnelle du pouvoir exaltant sa grandeur, va disparaître quand va surgir en France notamment le discours de la lutte des races. À l'histoire traditionnelle va alors s'opposer une autre histoire, une contre-histoire qui viendra déchirer l'unité du corps social, appel de ceux qui n'ont pas la gloire ou l'ont perdu, et qui, contre la grande histoire du pouvoir, vont dire leur histoire. Histoire des vaincus, donc, en tout cas de ceux qui ont besoin de dire ou de s'inventer une histoire qui soit le premier pas vers la reconquête du pouvoir. Au XIXe siècle, le discours de la lutte des classes entrera dans la catégorie du discours contre-historique. Le discours de la contre-histoire est donc un discours de la guerre qui revendique une généalogie pour pouvoir se fonder comme discours utopique ou messianique. La capacité à reconstituer une généalogie pour justifier une position de belligérant possible, ou pour le dire plus simplement, la capacité à légitimer l'usage de la guerre par une histoire réelle ou fantasmée, montre que le discours politique est un discours guerrier. L'histoire moderne est ainsi un intensificateur de la guerre, et c'est ce que remarquait à la même époque, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, aussi bien en France Ernest Renan qu'en Allemagne Nietzsche. Alors, c'est évidemment la crainte du pouvoir politique actuel que les blessures du passé se rouvrent, mais je dirais que c'est tout autant la tactique de ce pouvoir que de fabriquer une histoire falsifiée, une mythologie, pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la guerre continue. Mais pour que la guerre continue, il faut qu'il y ait des belligérants ou au moins des ennemis. L'ancien ennemi promu extérieur, l'ancien ennemi extérieur, promu par l'histoire au rang de partenaire international, et la Terre n'étant plus tout à fait, comme avant 1945, un terrain d'exercice militaire et un laboratoire d'expérimentation de la capacité souveraine, c'est essentiellement à l'intérieur du territoire national que cette capacité souveraine doit pouvoir être testée et que la puissance du souverain doit pouvoir être évaluée. La nouvelle mythologie coloniale est un discours à usage interne, indifférent par ailleurs aux effets produits au plan international. Et ici, je crois qu'il est impossible de ne pas articuler cette mythologie avec les événements récents des banlieues. L'immigré des banlieues françaises, dont les droits civiques se réduisent à chaque changement de gouvernement sans que ne soit plus jamais évoquée la question de ses éventuels droits politiques, reconstitue la fraction tuable du corps social telle qu'elle existait in situ à l'époque de l'Algérie française. À tous les points de vue, la situation de l'étranger est une situation toujours plus exceptionnelle. Le couvre-feu des banlieues, à l'automne dernier, n'a été qu'une réactivation d'un processus politique qui fait l'essence de la politique souveraine. Le souverain doit pouvoir décider qui est l'ami et qui est l'ennemi, qui doit vivre et qui doit éventuellement mourir. Le mensonge de la nouvelle mythologie coloniale me semble donc viser deux objectifs distincts, mais nécessairement complémentaires. D'abord contre le soulèvement récent des banlieues, mais plus fondamentalement sans doute contre le mouvement des droits des années 80 qui a produit des formes de conscience politique nouvelles chez les immigrés. Il s'agit d'affirmer la validité d'une histoire qui n'est certes pas celle des historiens, mais qui doit valoir comme histoire officielle, comme mémoire nationale. D'où la tentative, dont on parlait ce matin, d'introduction de cette histoire révisionniste dans les manuels scolaires des classes des lycées. Histoire approximative, qui ne cherche sans doute pas à rivaliser avec l'historien sur le terrain de l'objectivité, mais histoire qui affirme sa proximité, son intimité avec le sentiment collectif, qui cherche à satisfaire une attente collective en apaisant les douleurs liées à une frustration. La nouvelle mythologie coloniale vise un désir de reconnaissance, celui des vaincus de l'histoire ou de leurs descendants, désir d'autant plus fort que les travaux historiques des 20 dernières années ont pu contribuer à rejeter dans le camp des bourreaux ceux qui se considèrent avant tout comme des victimes. Satisfaire ce désir ne peut se faire qu'au prix d'une dénégation et d'une falsification massive de la réalité historique, mais ici, le mensonge est censé produire des effets politiques vertueux qui ont à voir avec la possibilité d'une réconciliation nationale. Évidemment, la question de savoir comment l'immigré peut se reconnaître dans un tel simulacre d'histoire ne se pose pas, dans la mesure où la réconciliation ne le concerne pas. Le second objectif, solidaire du premier, vise à réaffirmer, en un temps d'incroyance grandissante dans le pouvoir de la politique à régler les problèmes humains, la puissance de la politique. Or, la puissance de la politique n'est rien d'autre que la politique de la puissance. Pour le pouvoir, il s'agit donc de montrer, par des dispositifs légaux qui restreignent les libertés de certaines parties du corps social, en clair les étrangers, que l'État est toujours sur le pied de guerre, guerre aux représentations qui mettent en péril la cohésion et l'unité nationale, mais guerre aussi à ceux qui sont soupçonnés de vouloir déclencher, du fond de leurs banlieues obscures en situation de quasi-extraterritorialité, la guerre civile. La formule de Le Pen, reprise par Villiers récemment par Sarkozy, « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », est manifestement destinée à rappeler que, pour le pouvoir actuel comme pour l'opinion majoritaire qui le soutient, la guerre n'est pas finie et que l'unité nationale ne peut souffrir aucune exception dût-il en coûter au pays un nouvel épisode de la guerre des races. La stigmatisation, depuis plus de 20 ans, par tous les gouvernements et une partie des médias, de l'étranger fauteur de troubles, ne fait qu'augmenter la peur civile de l'explosion raciale. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que des propos politiques qui, il y a peu, n'eurent été tenus que par un Le Pen, puissent devenir le slogan du président d'un parti qui affirme par ailleurs son attachement à la tradition démocratique. Mais pour que la guerre soit justifiée, il faut que la menace soit réelle. En réaffirmant la grandeur de la France, en exaltant un passé dont chacun, si l'on en croit les mots du président de la République, doit être fier, la nouvelle mythologie coloniale jette sur l'histoire de la décolonisation un soupçon d'illégitimité. Car si le rôle de la France a été, comme le stipulait l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi 2005-58, si le rôle de la France a été un rôle positif, on comprend alors mal les raisons, sinon l'aveuglement et le fanatisme politique, qui ont poussé les colonisés à revendiquer leur indépendance. En disant la grandeur de son pouvoir et l'éclat de son passé, et en occultant le caractère criminel de l'entreprise coloniale, la loi rappelle aux filles et fils de colonisés des quartiers dits sensibles que si la France a perdu, il y a presque un demi-siècle, par l'un de ces accidents imprévisibles de l'histoire, ses colonies extérieures, elle ne perdra pas cette fois-ci ses colonies de l'intérieur, territoires en voie d'insurrection qui font la périphérie des grandes métropoles françaises. Les rapatriés des colonies, pour l'essentiel les pieds noirs, vaincus de l'histoire d'hier, doivent devenir les vainqueurs de l'histoire présente. Mais pour ce faire, les autres doivent occuper la place des éternels vaincus, selon le mot d'Étienne Balibar. C'est cela aussi que la mythologie actuelle, mais également l'arsenal législatif anti-immigré qui est en train de se construire aujourd'hui et qui transforme toujours plus la politique d'immigration de l'État en politique raciale, voire raciste, c'est cela aussi que cet arsenal et cette mythologie ont pour fonction de véhiculer et d'ancrer durablement dans la conscience publique. Enfin, en capturant le discours historique au sein de la loi, le pouvoir cherche à faire valoir que la vérité historique, pour importante qu'elle soit, ne peut être au-dessus de la loi et qu'il revient en définitive à la loi de dire la vérité historique de cette âme qui constitue, selon la célèbre formule de Renan, la nation. Alors je conclus. La politique est action. En agissant, l'homme a rapport à un avenir dont le caractère essentiel est l'imprévisibilité. Mais l'homme qui agit a aussi rapport au passé, dont le trait marquant est l'irréversibilité. La politique moderne, quand elle se définit comme exercice sans limitation du pouvoir souverain, quand elle accorde une foi aveugle à son propre pouvoir et qu'elle fonctionne dès lors comme rationalité pure, indifférente à l'experimentum mundi, s'arrange avec le passé par le mensonge, la falsification délibérée de la réalité, la réécriture permanente de l'histoire en fonction d'intérêts politiques par nature indifférents à la vérité historique. La nécessité politique du mensonge historique, mensonge qui est, doit-on le rappeler, l'un des traits marquants de l'expérience totalitaire, prouve seulement que l'action politique orientée vers l'avenir ne peut pas pour autant mépriser le passé. Pour l'homme d'action, la maîtrise du passé est une condition nécessaire à la maîtrise de l'avenir. La mythologie coloniale qui se développe aujourd'hui en France, qui est d'autant plus encouragée que des voix de gauche comme de droite appellent régulièrement l'homme blanc à sécher son dernier sanglot, est une tentative pour se rendre maître d'un héritage qu'il serait pourtant plus raisonnable de mettre en question, et cela d'une manière radicalement critique. Il renforce cet héritage au sein de la communauté politique, la discrimination essentielle qui en est le fondement, en justifiant le mensonge par la nécessité de la cohésion sociale et en revendiquant l'usage au nom de l'identité préservée du peuple. Il est probable que toute politique étatique soit fondée sur la célèbre distinction de Schmitt et qu'il n'y ait plus de souveraineté dès lors qu'il n'existe plus d'instance capable de décider qui est l'ami et qui est l'ennemi. Il est certain en tout cas que la politique actuelle, en France notamment, vise par les moyens les moins nobles à restaurer l'unité factice de la nation en renforçant l'exceptionnalité du corps d'exception constitué par les immigrés au risque d'une activation pour le moins aventureuse des ferments d'une nouvelle forme de guerre civile, une guerre des races dont la fonction pourrait aussi être de faire échec au jeu normal et nécessaire de la guerre des classes.